Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le meilleur du Super Moscato Show sur RMC. On est ensemble jusqu'à 18h. Et d'ici 18h, nous allons parler de l'Olympique de Marseille avec Dimitri Payet, du 15 d'Angleterre, avec Henri Pollock, de l'équipe de France, qui démarre une nouvelle ère après cette magnifique Coupe du Monde.
Alors, ne loupez
Zidane
pas.
Zidane réussira-t-il forcément en bleu à 17h?
Ne loupez pas ce moment-là, puisqu'une fois de plus, Vincent va manquer de respect au dieu Zinedine Zidane. C'est un scandale, mais c'est la liberté de Vincent.
Il y aura un peu de tennis également, avec le renouveau du tennis français, mais cette fois-ci, on ne parle pas d'Arthur Fils, mais de Moïse Kouamé. Et puis donc, les vieilles gloires de la boxe de retour sur le ring. Mais tout de suite, le match entre l'hippopotame et l'éléphant, qui c'est le plus fort, entre Hugo Mola et Bernard Laporte.
RMC, le Super Moscato Show.
Une image sublime à vous montrer du 47e festival de Montgolfière.
Ils m'ont battu tous leurs records physiques, tous leurs records de vitesse, de haute intensité, etc.
Montgolfière, c'est simple. On met de l'air chaud dans le ballon, l'air chaud est plus léger que l'air froid, le ballon monte.
Ce côté invulnérable, je ne sais pas si c'est inconscient ou inconscient.
C'est le premier engin volant de l'histoire.
On sera toujours une équipe difficile à battre.
Dès qu'on décolle, on est déconnecté de la réalité.
L'expérience, ça sert un petit peu, quoi.
Et le vent va nous pousser où il veut.
Non, moi, je trouve juste le niveau de jeu affligeant.
C'est cool, la Montgolfière.
Un tiers vaut mieux que deux. Hugo là.
Ça me fout le cul à l'arme, permettez-moi l'expression.
Championship ce week-end, le Stade Toulousain reçoit Bristol. Cette équipe domine depuis 7 ans déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. Ça vaut le grand Béziers, comme vous dites.
Ah ouais, le grand Béziers.
Quand
tu dis Béziers, tu dis toujours le grand
Béziers.
Le grand Béziers.
Donc, c'est 5 des 6 derniers titres de champion de France Toulouse. En Champions Cup, c'est un peu différent. Il y a un titre en 2021, un autre en 2024, ce qui est déjà énorme. Mais c'est vrai que pour les standards du Stade Toulousain, ça va un tout petit peu en dessous. Ça reste un des défis à réaliser par Toulouse, faire un doublé en Coupe d'Europe, voire un triplé comme Toulon, 2013, 2014, 2015. Nous allons donc jouer à notre jeu favori. Qui est le plus fort entre le Toulon 2014 et le Toulouse 2026, 2014, Toulon avait fait le doublé avec le championnat de France. Hein. Donc c'est Wilfried Templier qui s'y colle. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Bonjour Wilfried.
Comparaison des deux armadas, s'il te plaît.
Ouais, alors tu l'as dit, palmarès, RCT, trois titres de champion d'Europe consécutifs, 2013, 2014, 2015, que personne n'a jamais fait dans l'histoire, auquel il faut ajouter le doublé 2014, parce qu'il y a eu le bouclier de Brennus, donc quatre titres, mais ce triplé marquant. La génération Dupont au Stade Toulousain, c'est cinq boucliers de Brennus, dont un triplé, 23, 24, 25 séries en cours, et deux Coupes d'Europe, tu l'as dit, 21 et 24, ça fait sept titres quand même sur cette période. Mais ce sont deux équipes complètement différentes. Là où Toulon a su réunir les plus grandes stars de la planète, avec une véritable impression de Dream Team. Wilkinson, Botta, Abana, Guito, Eman, Juan Smith, Rosso, Fernandez Lobé, Mazoé, Drew Mitchell, les frères Armitage, Bastaro. Eh bien, sur sa période, le Stade Toulousain, lui, possède avant tout dans ses rangs les stars de l'équipe de France, on va dire. Ça a été Médard ou Huger, puis Dupont, Tamac, Baye, Marchand, Flamand, Meafou, Cross, Gelonche, Ramos. Plus quelques étrangers en cerise sur le gâteau, comme Keino, Famuina, Willis. Alors, tout à l'heure, on a demandé à Antoine Dupont, passionné et connaisseur de l'histoire du rugby, s'il comparait son équipe aux plus grandes et s'il avait envie de marquer l'histoire, c'est encore là. Il veut pas comparer, mais il a une idée derrière la tête, écoutez.
Je pense que c'est ce qui nous anime de toute façon. Même si on a beaucoup gagné, on reste des jeunes joueurs pour... La majorité de l'équipe, on a moins de 30 ans ou la trentaine, donc il nous reste quelques saisons à tirer. Donc si on n'a plus d'objectifs, ça risque d'être long de s'entraîner et de jouer pour rien. Donc c'est toujours ce qui nous anime. Aujourd'hui, on n'est pas à un stade de notre carrière où on regarde où on en est par rapport aux autres générations, aux autres équipes. On est encore en plein dedans. On a une équipe qui a le potentiel de gagner des choses encore. Donc on aura largement le temps, quand on sera plus vieux, à s'asseoir autour d'un café et regarder où c'est qu'on est dans les lignes du palmarès. Mais pour le moment, c'est pas la question.
Voilà, juste pour info, 28 ans, la moyenne d'âge du 15 de départ toulousain, demain, face à Bristol. Donc on peut comparer, mais l'hégémonie actuelle toulousaine, elle est peut-être pas terminée.
Qui est le plus fort, Vincent, Toulouse 2026 ou Toulon 2014?
On va pas prendre le nombre de titres, un triplé en Coupe d'Europe. Oui, bien sûr, on va en tenir compte. Après, le triplé en Coupe d'Europe avec Anthony Wilkinson, de Bastaro, des Armitage et tout ça, était incroyable. Devant, c'était une machine à broyer. Donc c'est vrai que t'as combien de champions du monde? T'as 6, 7 champions du monde dans l'équipe de Toulon. Ça n'a jamais été fait. C'est l'équipe, c'est comme on dit aux États-Unis là,
la dream team,
tu vois, mais
les galactiques.
C'est un truc exceptionnel qui s'est passé, qui ne serait plus possible actuellement parce qu'il y a d'autres trucs comme le salary cap et tout ça, donc tu peux plus faire ça.
Il existait à l'époque aussi.
Non, mais il n'existait pas, c'était pas pareil. Non, mais c'était assez flou.
Wilfried,
c'est
assez flou. Après lundi, on sait qui est le plus fort entre Mourad Boudjelal et Didier Lacroix. La précision est importante. Vincent, c'est les gifs qui font la différence. C'est que aujourd'hui, tu dois faire jouer des joueurs français. Il y a la formation française à la règle des gifs.
Mais moi, je reste persuadé quand même que le paquet d'avant avec les Sheridan, le droitier,
Burden et Shioki, la première ligne.
Mota, tout ça, c'était extraordinaire.
Ali Williams, c'était sur le banc.
Ali Williams, c'était sur le banc, bien sûr.
Le gros Sudaf dont tu parles tout le temps, c'est Danny Rosso.
Danny Rosso, écoute-moi,
lui, c'est un monstre.
Mais écoute-moi, tu te rappelles qu'il tuait chasser les sangliers à la main avec un couteau comme ça, avec Mota, comme ça, il s'enfermait, il plongeait sur les sangliers, les saignait comme ça. Non, mais là, c'est John Rambo, t'as peur.
Qui gagne le match?
Puis des mecs dingues, c'est-à-dire que un mec comme Mota sortait jamais. C'est-à-dire, tu vois, une espèce de mec.
Ça sortait jamais.
Boum, je suis toujours chez lui.
Pas
bu une bière que dalle. Ça faisait 135 kilos de mètre 2. Boum, ça rentrait à la maison.
Et après, imagine une vache.
Mais c'était terrible. Imagine une vache. Il revenait à l'entraînement. Il repartait. Son copain Rosso mangeait un troupeau de cochons. Il repartait comme ça. Tantin, il mettait un coup à bonbon. Et il repartait en avant Simone.
Qui gagne le match?
J'ai l'impression que tu es plus fasciné par l'équipe de Toulon que par celle de Toulouse.
Non, celle de Toulouse, elle nous fait rêver parce que le momentum est toujours plus impressionnant. Parce qu'on est là, on a le flash en direct du moment de ce qui se passe actuellement. Mais rappelez-vous quand même, cette équipe de Toulon, moi, je ne me prononcerai pas. Mais si tu me dis dans quelle équipe j'aurais aimé jouer, vous savez dans laquelle j'aurais aimé jouer.
Bien sûr,
dans celle de Toulon, c'est quand même. Je me serais régalé. Comme Denis lui aurait préféré jouer dans celle de Toulouse.
Oui, j'ai joué, moi, déjà.
Mais bien sûr.
Mais t'as complètement raison.
Mais ce que je veux dire, cette équipe de maintenant, tout le monde aimerait y jouer. Oui. Moi, j'aurais préféré jouer dans l'équipe de Toulon.
En plus, franchement, c'était Burden le talonneur. Là, tu peux le croquer, lui.
Et le demi-mêlée toulonnais.
Thiesbord.
Ah oui,
Sébastien Thiesbord, en dessous de Dupont. Là, il n'y a pas photo, quand même.
Mais tout le monde est en dessous de Dupont.
Et voilà.
C'est comme tout le monde est en dessous de Wilkinson.
Denis, alors qui est le plus fort?
Il n'y a pas photo.
Moi, j'ai du mal à départager. J'ai réfléchi dans tous les sens.
8 jours.
Je pense que tu les fais s'affronter aujourd'hui. Je ne sais pas qui gagne.
C'est très serré.
Je ne sais pas. Franchement, il y a tellement de qualité à Toulouse.
À l'époque, qui prend le dessus. Est-ce que c'est le pack et l'avantage physique?
Attention, Toulouse, t'es bien fou.
Toulouse, c'est costaud.
C'est costaud, t'es fou.
C'est plus costaud Toulon.
Ouais.
Non.
En fait, Toulon, ils font peur parce que aussi, c'est comme l'a décrit Vincent, c'est des mangeurs d'enfants.
Mais oui.
Mais ça veut pas dire que pour autant, ils poussent plus fort que la mêlée de Toulouse.
Alors moi, je pense que le collectif,
ils avaient quand même une mêlée quand même de fou, quand même.
Je suis pas sûr, oui. Je pense qu'en mêlée, peut-être qu'ils prendraient l'ascendant. Mais après, le collectif de Toulouse est monstrueux. Ça se vaut. S'il y a moins de collectifs à Toulon, il me semble. C'est plus un jeu rude de fait de. Mais quand même, je sais pas qui s'est gagné.
Mais Denis, tu crois pas que, parce que les deux équipes sont très haut niveau, moi, celui qui fait la différence, je pense que c'est le meilleur stratège. Dans ces cas-là, Hugo Mola, je pense que peut permettre de faire la différence face à Bernard.
On va le dire. Il nous écoute. Je voulais parler de Bernard, quand même, qui était un super entraîneur, mais qui était le seul peut-être capable de gérer
cette équipe-là.
Oui, cette équipe-là. Je pense qu'un autre à sa place n'aurait pas fait autant. Je pense aussi bien. Non, mais je sais pas. Bernard avait quand même cette faculté.
Oui. Il prenait les mecs.
Il a une autorité naturelle.
Ouais, après Hugo Mola, c'est quand même tous les fils de Bernard. Hein. Quand même Hugo, c'est pareil.
Hugo crée aussi.
C'est Hugo. Non, mais Hugo, c'est plus le fils de Bernard que de Guy. Il gère les mecs.
Il fait la route. Guy aussi. Je pense qu'il est pas loin d'être unique dans l'histoire du sport collectif, c'est prendre la succession de Guinoves. C'est-à-dire que quand tu as un long règne comme ça dans un club qui gagne,
c'était pas évident.
Généralement derrière c'est la catastrophe.
Guy l'a beaucoup aidé, c'est la jurisprudence
Manchester United. Hein.
Oui, mais Guy l'a beaucoup
après
aidé.
Après Ferguson, c'était catastrophique.
Oui, parce que Ferguson,
ils ont toujours autant de moyens.
Parce que Ferguson,
ils ont la même histoire, ils ont tout.
Ferguson n'a pas été ce qu'a été Guy.
Bah bien sûr,
Guy.
Oui.
Guy il a transmis.
Ah oui, c'est un transmetteur.
Guy a transmis à Hugo Mola. Il lui a donné allégeance. Tu vois, il l'a amené comme ça.
C'est une boutade.
Sur la gestion de Bernard, t'as raison. Moi, c'est un joueur qui m'a raconté un jour. Wilkinson un peu moins bon que d'habitude. Il a dû rater un coup de pied. Bernard dans le vestiaire à la mi-temps, il dit toi, t'es champion du monde, toi de rugby, à Johnny Wilkinson.
Non mais
il y avait pas de problème. C'était le jeu.
Mais t'as aussi.
Je suis pas sûr que Bernard est très fort dans la gestion, mais il faut aussi que un président très solide et Mourad Boudjelal, le binôme Bernard Mourad Boudjelal était quand même là pour tenir les bêtes.
Ah oui, c'est sûr que là c'est pas la même musique.
C'est pas la même musique.
Donc tu les départages.
Mais je sais pas en fait. Moi sur l'affinité du jeu, moi j'ai comme l'a dit Vincent, moi le jeu du Stade Toulousain que j'ai actuel et c'est le jeu qui me plaît un peu plus parce que c'est une équipe qui met 5, 6, 7, 8 essais et qui est capable de mettre 40 ou 50
points. C'est comme la Dream Team aussi.
Les équipes d'Europe. Toulon c'était quand même un jeu, Vincent l'a dit, un peu bestial quand même.
Oui, mais fait derrière. Tu regardes derrière.
Ça jouait quand même.
Mais on est quand même sur deux époques différentes. Alors les GIFs ont beaucoup changé et aussi l'époque de Toulon. Pourquoi Bernard mise aussi sur beaucoup les étrangers? C'est qu'à cette époque-là, le 15 de France est quand même beaucoup moins dominant que le 15 de France actuellement.
Oui.
Les joueurs qui composent le 15 de France actuellement, le 15 de France est peut-être top 3.
À cause de Toulon aussi, puis ils ne faisaient pas jouer de joueurs français.
Oui, et à l'époque, le 15 de France, je me rappelle, je crois que c'est 2012-2013, il y a cuillère de bois au tournoi Destination. Peut-être que le roster, le talent des joueurs français était peut-être moins bon que ceux actuels.
Du coup, c'est comparable quand tu as Dupont, Ntamack et Ramos avec les mecs qu'on a cités à Toulon.
Avec qui,
en termes de domination internationale.
Toulouse a les meilleurs joueurs du monde, mais ils sont français.
Toulouse, encore une fois, je le dis, il y avait quand même 5-6 champions du monde. Ouais, entre les Australiens, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais, t'en avais un camion. Hein.
À Toulouse, il n'y en a pas un.
Tu imagines, lui.
À Toulouse, il y a pas un numéro 8 du monde.
À Toulouse, actuellement,
il y a Kilo.
Il joue plus.
C'est ça, c'est que je veux te dire que la différence.
Champion du monde 2027.
Ça fait que les mecs sont champions du monde en France. Et ça, c'est énorme.
Ils ont que des champions du monde 2027 à Toulouse.
Que des champions. Alors là, ils vont en avoir une chopée, ils vont en avoir 15.
Pour départager Toulon 2014 et Toulouse 2026, c'est un supporter du Stade français qui a appelé le 32-16.
Ah ouais, neutre, quoi.
Salut Stéphane.
Salut Stéphane.
Salut à tous.
Bonjour Stéphane. Comment il va?
Supporter du Stade français, originaire de Cahors, pour faire plaisir
bien
à Denis. Il va très bien, j'espère vous aussi. Pour moi, Toulon a un centimètre d'avance sur le Stade toulousain actuel, pour une bonne raison.
C'est pas beaucoup,
c'est qu'avec Wilkinson à l'ouverture, c'était une équipe en plus respectée de l'arbitrage anglo-saxon.
Ah, bonne remarque.
C'est-à-dire que ils ont toujours été plutôt arbitrés comme des anglo-saxons. Et parfois, je me souviens de matchs où un autre club français n'aurait pas gagné.
Ouais, mais
il y aurait eu la pénalité qui serait tombée au mauvais moment.
Tort, parce qu'ils étaient respectés, respectés même par les arbitres.
Ouais.
C'est possible.
Voilà, ils étaient très très respectés, surtout par l'arbitrage anglo-saxon, je trouve.
Mais respectés à cause des joueurs étrangers.
Mais je suis désolé, Stéphane, cet argument-là, il joue plus pour Toulouse. C'est-à-dire que tu dis peut-être qu'ils ont bénéficié parfois de la mansuétude d'arbitre anglo-saxon, ce qui veut dire que
ça peut jouer pour le Toulousain.
Avec un arbitrage à égalité, ils ont un avantage en moins.
Non, mais c'est-à-dire qu'en rugby, Denis et Vincent le savent très bien, un arbitre, à un moment donné, il va faire un choix à un dixième de seconde près. C'est très tangent, surtout au très très haut niveau.
Moi, je le sais très bien.
Et quand vous êtes mieux regardé, ça passe mieux.
Mais c'est marrant, parce que quand t'as démarré sur Wilkinson, j'ai cru que t'allais prendre Wilkinson comme élément pour déterminer que le joueur était un peu plus fort.
Oui, mais
pas parler d'arbitrage, parce que Wilkinson, c'est vrai qu'il n'y en a pas deux comme ça. Toulouse actuellement.
Wilkinson est au-dessus, mais ça c'est clair. Mais il était aussi déterminant dans ces discussions. Moi, je l'ai vu dans le tournoi, là. Dupont, quand il discute avec les arbitres, ça se passe bien. Mais vous avez vu comment le capitaine anglais ou écossais ont parlé aux arbitres. Jamais un Français n'oserait faire ça. Ouais. Enfin, Itoje, il a passé des matchs à faire le quatrième arbitre.
Oui, mais ça a changé aussi. Non,
vous préférez Wilkinson to use board ou Dupont Ntamack?
C'est une bonne question.
Ah, c'est terrible ça. Il faut choisir, allez.
Tius Bourne était bon, les gars.
Ouais.
C'est pas Dupont, parce que Dupont, il a mis de l'ombre sur tous les demi-mêlées qu'il y a eu. Maintenant, j'ai l'impression qu'à 100 ans de rugby, il n'y a eu qu'un demi-mêlée, c'est Dupont. Rappelez-vous qu'il y a eu des Berbizier, il y a eu des Galion, il y a eu des Galtier. Galtier a été élu meilleur joueur du monde aussi, tu vois. Il y a eu des demi-mêlées qui étaient très, très forts de partout, de tous, et Parra. Parra, rappelle-toi, Morgan Parra qui fait une finale et tout, il a 70 sélections. Il était pas bon, Parra.
Et Yachvili.
Et le Yach. Le Yach.
T'as oublié.
Petit coup que j'ai formé. Crac.
Et donc, t'as toujours pas cité Berbise.
J'ai commencé par lui, crois-moi. De suite, je me suis fait un nœud dans le mouchoir. Je me suis dit, il faut commencer par Berbise, autrement, du moins.
Voilà, Denis Charvet a eu du mal à trancher, Pierrot.
Disons qu'Hugo Mola, c'est plus sur la durée, alors que Bernard Laporte s'est concentré sur trois saisons. Ça fait partie des arguments.
Après, Hugo a encore du temps devant lui, là. Il peut écraser le palmarès de Bernard Laporte définitivement.
Absolument. Alors, on revient avec du tennis et de la boxe. Les retours sur le ring de Pacquiao, Mayweather et même Tyson. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Vous êtes sur RMC, il est 16h30 et vous l'attendez avec impatience. Ce débat sur Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, réussira-t-il forcément en bleu? Ça, c'est des débats intéressants. Parce que personne n'a la réponse.
Personne n'a la réponse et bah, surtout ce qu'a fait Didier, quand même, c'est pas mal, on va dire, Pierrot. C'est pas mal.
C'est plus que pas mal, quand même. Le journal moyen, juste avant cela, deuxième édition.
Oui, la deuxième édition du journal moyen, des casseroles, évidemment, du Denis Charvet, c'est un grand classique, on adore ça, qui dit n'importe quoi dans l'émission Entre les poteaux, l'émission de rugby, et puis une casserole qui concerne notre Stephen Brun adoré.
Mais tout de suite, on le sait, le sport le plus difficile pour prendre sa retraite, c'est la boxe. Ils y retournent tous. Même Mike Tyson, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Initiation à la boxe pour ce groupe de seniors.
Let's get to
entre les poteaux time.
À la retraite, jamais ces habitants de Seine-Saint-Denis n'auraient imaginé refaire du sport un jour.
Comme quoi le sport est surprenant, il te prend toujours à contre-pied sur tes vérités.
L'hôpital de Montfermeil sensibilise les 60-85 ans au sport.
Le sport, on le sait, c'est une nourriture pour l'esprit qui est formidable.
Des retraités déterminés à ne rien lâcher.
Il sent moi, l'autre est tombé. Il a pris un clock-down. Hein. Quand il tombe, c'est peut-être non.
Le sport est devenu le meilleur allié de nos aînés.
C'est un remède extraordinaire à la mélancolie.
Pour combattre le temps qui passe.
Avec comment il s'appelait là, celui qui met une branlée terrible là.
Et casser la routine du quotidien.
Et puis de se sentir confronté à soi-même, quoi. De reprendre c'est vie avec son corps. Son propre corps, ça c'est important.
Son bon Moscato, il va te le régler le problème.
Allez, la boxe vit une période de folie entre l'argent saoudien, les combats contre les influenceurs et donc le retour des retraités légendaires, ça bouge beaucoup. Dernière dinguerie en date, Floyd Mayweather, 49 ans, invaincu en 50 combats pour une exhibition contre Mike Tyson, puis un rematch contre Manny Pacquiao, l'autre légende, 47 ans. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Vincent? Règle le problème. Est-ce que ça vous plaît, oui ou non? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce qu'il y en a trop? On va débattre de tout ça avec Jean-Philippe Lustig. Un mot avant de démarrer le débat, Jean-Philippe, le retour de Mayweather, c'est du sérieux. Hein. On atteste son contrat avec Fight Sport. Hein. C'est pas juste pour amuser la galerie. Non. Hein.
Il a signé un contrat, et c'est fort intéressant, sur 3 combats. Le premier, contre Mike Tyson, sous forme d'exhibition. La date n'est pas bloquée. Donc, il devrait avoir lieu au printemps. On devrait annoncer dans quelques semaines. Il a donc signé un contrat avec une plateforme qui s'appelle CSI. Et durant le Sportel, vous allez souvent au Sportel chaque année.
À Monaco, oui.
À Monaco, il y a deux frères, Greg et Richard Millet, qui ont donc créé CSI. Et c'est une plateforme de distribution, de production et de programmes sportifs. Mais surtout de boxe, également de sport de combat. Et il y a, au sein de cette plateforme qui est très importante, il y a une chaîne qui s'appelle Fight Sports, qui touche 190 pays. D'ailleurs, elle est distribuée en France, sur Bouygues Télécom, d'ailleurs, Fight Sports. Et là, ils ont décidé maintenant de signer un contrat. Donc, avec ce qu'ils appellent en anglais le fameux New Global Media Deal, avec Floyd Mayweather. Premier combat, donc, exhibition contre Tyson. Deuxième combat, contre Mayweather, le 19 septembre, c'est signé à Las Vegas. Mayweather contre Pacquiao pour donc le combat revanche. Et un troisième qui devrait avoir lieu en décembre. Mais là, on attend un petit peu de voir l'évolution. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté assez extraordinaire.
Vincent, tu es fan, t'es pas fan, tu vas regarder, ça t'intéresse pas?
Ça m'intéresse parce que je vois Pacquiao. Pacquiao contre Mayweather parce qu'ils ont moins de 50 ans, donc en s'entraînant très fort en boxe, ça peut être jouable. Il n'y a pas de problème de récupération, puisque c'est pas, ils n'enchaînent pas les combats, c'est ce qui tue. En vieillissant, on en dit mille fois, ce qui tue au foot, au rugby, tout ça, c'est d'enchaîner les combats. Là, sur un combat, je pense qu'on ne les trouvera jamais au niveau dans lequel ils ont été, tu vois. C'est, bien entendu, on ne refait pas la jeunesse, quoi. Ils n'auront pas 30 ans, donc ça sera plus difficile. Mais j'aimerais voir ces deux mecs qui étaient talentueux, qui cognaient fort, les voir l'un contre l'autre avant 50 ans. Là, c'est jouable. Après, Tyson, Pacquiao, ou Mayweather. C'est une exhibition, c'est tranquille, on veut voir les vieux, on veut voir Mike Tyson, ça fait toujours plaisir de voir Mike, dans quel état il est fini. C'est du fitness, c'est du fitness,
c'est un produit. Pourquoi il faut pas de l'aérobic,
hein. Ouais, voilà, c'est machin, on le voit, il est en forme, on est content, parce qu'on s'est inquiété quand même pour Mike, tu vois, sur sa vie après la boxe. Il est plutôt en forme, papy, tu vois, il fume un peu, poum, tranquille, il est tranquille, il se maintient en forme.
Ah, voilà, c'est ça, tout
nous fait,
Gandia,
hein. Ça nous fait plaisir, écoute-moi, ça nous fait plaisir. Mais les deux, sportivement, tu sais quoi? Alors, nous, on est vieux, donc on s'intéresse aux vieux, bien sûr. Et puis, c'est les mecs qui ont bercé un peu quand même nos jeunes années, quoi, tu vois. Et donc, ils ont moins de 50 ans, c'est comme ce qu'on 10 ans de moins que nous. On sent que la vie. Les mecs se maintiennent en forme très longtemps. Beaucoup plus, on le voit dans le foot, il y a beaucoup de mecs qui ont 40 ans, dans tous les sports. Mais nous, on s'accroche, mais on en a 10 de plus, donc c'est pas pareil. Mais, tu vois, dans tous les sports, les mecs vont de plus en plus tard, on voit au tennis, tout ça. 40 ans maintenant, c'est plus une limite.
Plus mourir,
40, 45 ans. En boxe, on a eu Hopkins, qui a été jusqu'à 45, 46.
49 ans, champion du monde en mi-lourd, à 49 ans.
Donc, c'est sur un coup, la boxe, attention, c'est sur un combat. Sur un combat, tu te prépares, c'est bien qu'il cède un peu en boxe, hein, c'est pas interdit, surtout sur ce genre de combat. Donc ça peut le faire.
Il se charge.
Ah ben, je pense qu'ils prendront un peu de protéines ou quoi, des trucs comme ça ira pas mal. Manière de travailler. Il y a plein de soins qui sont autorisés et qui te permettent, la médecine te permet maintenant d'être plus en forme qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc automatiquement, moi je veux le voir. Ce combat, ça m'intéresse au niveau pugilistique.
Denis ? Pas du tout, non. Moi j'ai toujours été contre, je trouve ça pathétique. Je pense qu'à un moment donné, le sportif, il a fait son temps et qu'il doit faire autre chose ou essayer de faire autre chose. Après, je comprends que ça les titille et que la petite mort, eh ben, elle nous gagne à tous quand t'as fait du sport de haut niveau.
Oui, c'est un sacré chèque, les gars, quand
oui,
même.
Puis, oui, mais on fait ça, ouais, mais après, c'est ça qui me gêne enfin, davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la seule raison qui les attire, c'est quoi? C'est l'argent, c'est le pognon, c'est même pas le. Ils sont même pas.
Mais ce métier-là, c'est
ils respectent fait, même pas. Je trouve qu'ils respectent pognon, même. Ouais, mais ils respectent même pas la discipline, je trouve.
Ah, tu peux pas dire ça.
Non, mais je pense pas qu'ils. Parce que d'abord, ils vont arriver à affûter. Ils ne vont pas arriver à 80 kilos, si tu veux, avec des bourrelets de graisse.
Ouais,
ils sont
pas
toujours.
Durant, là.
Non, vraiment.
Et non, mais affûter, c'est une chose, Jean-Philippe. Mais si après, veux... avoir le niveau, et avoir un bon niveau et se régaler par rapport au niveau qu'ils vont
avoir. Ils l'auront pas, forcément.
Juste un élément. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de survendre en disant que c'est le match exceptionnel. Non, simplement, l'intérêt aujourd'hui qu'on porte à ce combat, il y a Pacquiao qui est revenu boxer l'été dernier, après 3 ans d'arrêt, au-delà de 45-46 ans. Il fait match nul contre Mario Barrios, le même qui a été battu il y a quelques jours par Ryan Garcia dans le titre mondial des Welter. Il fait match nul avec lui, un Mexicain de 30 ans. Donc Pacquiao est un phénomène de longévité. Il a commencé à être pro à 16 ans, 17 ans. Il a 30 ans de boxe derrière lui. C'est si
il y a des phénomènes. Hein.
Oui, non, mais c'est après, un phénomène. Et après, Mayweather a poursuivi depuis 2017 son dernier combat devant McGregor, qui avait été une parodie de combat devant le champion du MMA. Il s'est entretenu avec des pseudo-exhibitions. Et il y a toujours l'envie de refaire le combat revanche, parce que n'oublions pas que le 2 mai 2015, ça a été le combat le plus lucratif de l'histoire de ce sport.
Oui, mais 11 ans après, il est décevant aussi.
Alors,
à l'avant-combat, oui, à la hype qu'il y avait et à l'attente,
il n'y a rien eu. Oui, mais alors, attendez, les gars, des matchs décevants, c'est le lot du sport. Des matchs de foot minables, des matchs. Rappelle-toi, la revanche entre Buster Douglas et Tyson, ça avait été catastrophique. Ils avaient retenu la bourse d'ailleurs de Buster Douglas.
Non, de Ruddock.
Non, la revanche. Quand Buster Douglas le bat à Tyson, il y a une revanche.
Ils n'ont pas fait, mais c'est pas.
Ils n'ont pas fait.
C'est Ruddock.
Il met la bourse.
Ouais, non, non, mais ils n'y ont pas. Non, non, tu as eu juste le combat revanche, c'est Holyfield Tyson quand tu lui mords l'oreille. Ouais, c'est voilà. Juste le combat revanche.
Voilà, voilà.
Celui-là, et avec les conséquences que ça a lorsqu'il lui mords l'oreille.
Des matchs de merde, on en a vu 10 000, tu vois. Voilà. Et les mecs avaient 25 ans.
Hein. Eric, est-ce que ça te plaît?
Écoute, moi, j'ai fait partie des gogos qui étaient enchantés, souvenez-vous, puisque ce débat, on l'a fait sur plusieurs combats, et notamment sur
Tyson,
Tyson quand il revient. Ouais. Moi, j'ai fait partie des gogos qui étaient enthousiastes et qui ont payé pour voir ça et pour en voir d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. C'est fini, je me ferai plus attraper. Mmh. Voilà, je me ferai plus attraper. Ils peuvent se battre, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte le fait que, et j'entends ce que Jean-Philippe nous dit, c'est Pacquiao, Mayweather, qui sont quand même plus jeunes que Tyson.
Oui, ça n'a rien à voir.
Et qui sont quand même des hyper talentueux. Tu as raison, puisque ça s'est vu. Ils peuvent peut-être rivaliser avec les bons combattants du moment. Et si ils ont envie de s'y filer, il n'y a pas de souci. Et puis ils se prennent des millions et tout et tout. Sauf que ce sera sans moi. Voilà, j'ai plus envie. On s'est fait attraper quand même les derniers qu'on a regardés, les gars. Vous vous souvenez? Ouais, alors maintenant, il y a les influenceurs qui vont.
Ils vont être
déçus. Voilà.
Je
suis content que l'autre soit fait casser la bouche, parce que peut-être qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que de boxer contre un vrai boxeur, c'est dangereux. Tu vois, peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est dangereux. voilà. Après, si c'est deux mecs de 50 ans qui sont en pleine bourre et qui ont été des champions du monde incroyables, ils veulent s'en faire un autre. Allez-y les gars, mais ce sera sans moi. Voilà, non,
Philippe,
tout, ils ont le droit.
Ils vont le regretter que tu sois pas là, Eric.
non, je pense qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement parce qu'ils vont en attraper d'autres. Hein.
Non, mais je comprends votre posture. Maintenant, nous, on n'est pas la bonne cible. Eh oui, la bonne cible aujourd'hui.
Qui est la bonne cible pour toi?
C'est aujourd'hui les jeunes.
Les jeunes
qui ont 25, mais bien entendu, qui eux consomment du Mayweather ou du Pacquiao sur les réseaux. Mmh. Et ils ont regardé les vidéos d'hier. Les mêmes qui ont observé Tyson et qui fascinaient. Et c'est eux qu'aujourd'hui le public, et c'est pour ça que Netflix l'a diffusé en direct.
Ils vont attraper les jeunes, ouais.
Et voilà, ils vont attraper donc ces jeunes en disant: ah oui, c'était ça le crack, il est toujours invaincu, 50 combats, 50 victoires, Mayweather, le Money Man, le mec qui a fait des fortunes.
Ça le remet au goût du jour, toutes ces réseaux sociaux.
Et donc, c'est par ce biais-là, finalement, de toucher ces jeunes-là. Il y a un défi sportif, l'envie, et Pacquiao dit: je vais enfin lui infliger sa seule défaite de sa carrière, il serait temps qu'il soit battu. Et donc, ils vont se retrouver.
Alors, après, si on fait la psychanalyse de bas étage, tu peux te demander aussi si Mayweather ne veut pas perdre un moment, quand même. Parce que c'est un des rares boxeurs qui a un palmarès vierge de défaite.
Il ne perdra pas.
Et tu as l'impression qu'il la cherche, finalement, sa défaite.
Mais non, parce qu'il est tellement. Et là, quelque part, je rejoins Vincent. C'est-à-dire qu'il a été, durant toute sa carrière, d'une intelligence sur le ring diabolique, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, diabolique entre guillemets, hors norme, mais d'une intelligence hors norme aussi en dehors. Le choix des adversaires a été capital pour protéger et même la manière qu'il a eu de boxer.
Oui, mais tu vois, justement, Jean-Philippe, je me permets de t'interrompre. Moi, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas un événement. C'est que Mayweather, qui était un des meilleurs boxeurs de l'histoire, n'a jamais pris de risque. Et à la fin, moi, je dis franchement, à la fin, ça m'a gonflé. C'est-à-dire qu'à la fin, je trouve que sa carrière a été gâchée par le fait qu'il ne se mette jamais en danger.
Mais quand il rencontre de la Hoya.
Une, il était le meilleur. Et de deux, son seul objectif annoncé, je ne sais pas si c'est la réalité, c'était de gagner de l'argent. Alors, il a le droit, Money Mayweather, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, réalise quelque chose de sportif, affronte Pacquiao lorsque c'est le moment, lorsque Pacquiao a une possibilité de te battre. Et non absolument. Pas, une fois que la chance est passée, et que tu es sûr qu'il ne va rien se passer, que tu n'es pas en danger. Moi, Mayweather, sa carrière a fini par me gonflé, c'est un petit peu grossier, vous m'excusez. Et donc, quand il revient 11 ans après, pour refaire Pacquiao, je lui ai dit franchement, rien à tirer.
Alors, on compte pas sur toi non plus. Eric,
moi, tu n'es pas un badeur comme le gros, là.
Après, il y a quand même l'âge qui rentre en compte, Jean-Philippe. Je veux dire, par rapport à la dangerosité de ce sport.
Non, parce qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller. Le combat Pacquiao Mayweather est un véritable combat. Il y aura un enjeu, ils retiendront pas les coups. Ce n'est pas une exhibition.
Tous les deux.
Oui, mais si tu veux.
Là, c'est un combat. Mais les mecs, ils ont 48-49.
Non, je ne sais pas par rapport à la dangerosité.
On a une idée des bourses, Jean-Philippe.
Comment?
On a une idée des bourses.
Non, mais là, ça va se calculer en dizaines de millions. Netflix est aujourd'hui le diffuseur. Ça sera pour la quatrième fois que Netflix se lance. Donc, en gratuit, entre guillemets, dans la mesure où il faut juste abonner à Netflix, mais il n'y a plus de pay-per-view, à la différence de ce qui se passait précédemment. Il y a donc une exposition colossale du combat. N'oublions pas.
Il n'y a pas de pay-per-view?
pas de pay-per-view,
Eric,
c'est sur Netflix.
Tu peux peut-être revenir, ça ne coûtera rien.
Si t'as Netflix, Eric, t'as Netflix ou pas
Eric, attention. Ah non, mais même si c'est gratuit, moi, c'est pas une question d'argent. Je ne veux pas participer à
cette mascarade.
Voilà,
oui, bien, oui.
À cette mascarade. Moi, je suis Tim Pirou.
Est-ce qu'il est possible. Alors, il se dit que Mayweather, qui a gagné quand même, qui est un des premiers sportifs à avoir gagné le milliard de dollars, et mal géré son argent, et aujourd'hui encore besoin d'argent. Est-ce que c'est possible simplement ça?
Comment tu fais pour mal gérer ton argent avec le milliard quand même?
Il a gagné beaucoup, donc il n'a pas tout dilapidé. Non, absolument pas, mais je pense qu'il est dans cette logique-là. Il n'y a rien en dehors de son image de boxeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé le moyen, et pourtant Pacquiao en aurait trouvé avec une carrière politique. Mais il s'avère que ce n'est pas suffisant. Non, mais rien ne remplace aujourd'hui la lumière du ring.
Le vertige, il regarde en bas le vide après la carrière. Il a le vertige de ce vide qui est là après la boxe là, tu vois, il se dit pas mec ouais je vais aller faire jouer à bagatelle au foot,
pour ça je trouve que
c'est pas de la musique,
il a une cote aux États-Unis incroyable. Floyd Mayweather, c'est une superstar aujourd'hui dans le qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez Tyson, Holyfield, Mayweather, l'impact qu'il y a auprès du public américain lorsqu'ils viennent assister à une soirée, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est hors norme.
C'est le printemps, Mayweather.
Voilà. Tyson
avait fait combien, tu dis, sur Netflix?
Comment?
Tyson
a fait 130 millions ou 142 millions de connexions. Et n'oublions pas la bourse du premier combat Pacquiao Mayweather. 180 millions de dollars pour Mayweather le 2 mai 2015. 120 pour.
Vous occupez pas, les histoires sont rentables. Même le truc de Tyson avec.
Juste un mot sur Tyson Mayweather. Est-ce que.
Bon, mais ça, c'est une. Moi, ça me fait plaisir qu'il sorte le vieux, qu'il a l'air un peu. Non, mais c'est vrai, ça lui fait du bien. Il est là, je le vois.
Non, mais il est beau, il est beau comme un camion.
Il est extraordinaire, je vais te dire, faut pas lui tomber dans les pinces quand même, parce qu'encore, il peut te déboîter. Il est impeccable, il est là,
les plantes, ça conserve, Vincent.
J'aimerais savoir si Tyson Mayweather, ce sera avec Eric Dimeco. Ou est-ce qu'on devra se passer de ta présence?
Non, mais moi, c'est fini, je ne suis plus un gogo,
Et en plus, la durée des rounds, ça sera en 2 minutes, hein. Au contraire de Pacquiao Mayweather.
Rappelez-vous le dernier combat de Mike, il avait même retenu ses coups pour pas massacrer l'autre, parce que sinon il aurait massacré comme Joshua l'a fait. Là, j'espère qu'ils vont lâcher les coups. Moi, je veux juste
qu'il s'aplatisse, avec sa fracture de la mâchoire. J'ai cru qu'il était en chimio. Là, ils l'ont fait à l'hôpital des caméras. À un moment donné, il avait une balafre comme ça. Je te jure, j'ai cru qu'il avait pris un coup de sabre. Il se fout de qui?
Il a massacré.
Moi, je pense qu'il est dans une démarche. Si on fait, on va pas faire une étude psychologique à deux balles, mais dans une démarche suicidaire, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout, même le pire jusqu'au bout.
Oui,
moi, je pense dans sa démarche.
Parce qu'il n'y a que son ego. Il veut être devant tout. Mais là, tu vas voir, ils vont reboxer. Je sais pas contre qui. Ils vont reboxer contre un ours.
Il va mourir sur scène.
Exactement. Face à Trump. Alors là, c'est juste un truc. Si bon, c'est face à Trump.
Dans les jardins de la maison.
Par contre, c'est vrai que le cinéma, j'en ai là quand même à l'hôpital pour le match.
C'est le summum.
La mâchoire pétée, j'ai dit, mais c'est pas fou, il a sauté sur une mine à un moment donné, il avait une balafre. J'ai jamais vu ça, moi j'ai lu la mâchoire fracturée. T'as jamais ça, t'as foutu du grillage dans la bouche et puis c'est réglé.
ActuBox demain encore dans le Moscato Show, puisque Tony Yoka va nous en dire plus sur la suite. Il est dans la conférence de presse de la réunion où on verra Bakary Samaké en combat principal. Donc, on va savoir quelle est la prochaine étape pour Tony Yoka, puisque il est censé affronter Bakolé au Congo, mais également au mois d'avril. Donc, les deux combats peuvent pas avoir lieu en même temps. Donc,
la soirée organisée par Queensbury. Les Anglais se déplacent demain. Queensbury,
Bakary Samaké.
En l'occurrence, son fils vient. Donc George Frank ne vient pas, son fils vient en tant que CEO de Queensbury. Grande conférence de presse et donc l'officialisation de cette soirée importante. Mais
est-ce qu'il est possible qu'il annonce qu'il rencontre Bakolé ici à Paris au mois d'avril?
Non, l'adversaire est connu. Voilà, l'adversaire est connu et il devrait être présent demain.
Très bien.
Voilà, ainsi que l'adversaire de Samaké. Donc non, c'est un événement, l'arrivée de Queensbury avec l'organisation.
Ça a transpiré le Mon combat avec Christian et Milly, ça commence à faire tache d'encre sur le buvard.
Vous allez voir sur les réseaux sociaux de Super Moscato Show, Vincent faire la leçon avec Christian et Milly.
Il apprécie, hein, Milly.
Et il fait pas le malin, Christian.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci à vous.
Et la boxe sur RMC avec le 12 septembre, le grand combat pour Christian Gilly.
Et c'est bon cette voix de Jean-Philippe Lustig. Il nous régale.
C'est le meilleur. Philippe, hein. Allez, on enchaîne avec du tennis.
Que Vincent appelle Philippe une fois
sur deux.
C'est
incroyable. Bon, ils s'en vexent pas, Jean-Philippe. Hein. Non. Tout de suite, Moïse Kouamé, c'est notre cri du cœur, c'est du tennis.
RMC, le cri du cœur du super Moscato
Alors,
Show.
Alors notre cri du cœur, c'est le jeune tennisman français Moïse Kouamé. Ça fait quelques semaines que Moïse, 16 ans et 11 mois, fait parler de lui. Eric Salio va nous le présenter. Bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Salut Eric. Alors, c'est tôt encore, hein. Il n'y a pas encore de coup d'éclat sur le circuit pro. Pourquoi est-ce qu'il fait tant parler, Eric?
Parce qu'il a un potentiel immense. En janvier, il a gagné deux tournois. Alors, deux futurs, hein. C'est la catégorie en dessous des challengers, mais il faut donc déjà le faire.
Pour ceux qui ne suivent pas le tennis, tu as le tournoi ATP, en dessous les challengers et en dessous les futurs.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des 25 000.
Ce sont des tournois seniors.
Qui sont très, très durs à gagner. Et puis, mercredi dernier, il était à Montpellier, donc il est sorti des qualifs. Donc là, c'est un ATP 250. Et il a failli devenir le 7e plus jeune joueur à remporter un match sur le CQ. Donc vous voyez, il y a un gros potentiel. Maintenant, c'est un garçon...
On n'emballe pas parce que ça fait 20 ans qu'il nous voit des pompes. Hein. Donc, vas-y avec...
Il prend des pincettes.
Il est dans les bons temps de passage. Oui. Maintenant, on s'aperçoit que ses
Alors déjà, t'as dit un
circulent.
Truc, temps de passage, déjà, moi, j'aime pas du tout ce mot. Non, mais vas-y, continue.
Vas-y, t'as la parole, Eric.
Non, il est... Il y a beaucoup de coachs qui sont autour de lui et qui disparaissent. Donc là, il a travaillé avec Richard Gasquet, avec un coach belge qui a été limogé. Et là, c'est Laurent Raymond, l'entraîneur de l'équipe de France, qui va l'accompagner ce soir au Challenger de Pau.
Oui, mais parce que Richard, je ne pouvais pas y aller.
Voilà. Et puis Richard, en plus, il est blessé. Il s'est fait mal au mollet, apparemment.
Je confirme, je le vois tous les jours. On passe notre déo ensemble.
On l'a vu au portail. Ouais. J'ai dit, mais tu joues pas. Mais il s'est fait mal au mollet.
Il s'occupe de Moïse Kouamé, Richard.
Il est en mission avec Moïse Kouamé.
En transition avant qu'il trouve un autre coach.
Voilà. Maintenant, il faut de la stabilité et la Fédé est en train de chercher peut-être l'oiseau rare, je ne sais pas, mais il lui faut une structure solide.
Alors juste avant qu'on fasse que Alizé et Sarah notamment nous parlent de Moïse Kouamé, tu nous as parlé plutôt de ses performances sur le jeu, qu'est-ce qu'il a de spécial?
Alors le jeu, pour moi, c'est Gaël Monfils.
Okay.
En déplacement, c'est monstrueux. Il bouge comme la monf et il est capable d'envoyer des pétards en coup droit. Ouais, il sert déjà très très bien. Je crois qu'il mesure 1m89. Soit, il y a du potentiel. Okay.
1m89.
Alors, j'ai l'impression qu'il va en falloir plus pour convaincre Vincent.
Non mais tu m'en as vendu. Il m'en a vendu dès qu'il arrivait qu'il devait tout casser. Non mais c'est... il ne pompe pas.
Il te promet rien là.
Ça fait être d'entrer l'attaque. Ça fait être le premier qui gagne le tournoi des machins à Montpellier. Après il va nous sortir. Il va le tournoi des As à 11 ans et demi. Il avait battu. Voilà, 15 ans il nous avait vendu Alizé Cornet. On attend toujours. Voilà, elle est là. Voilà, il y en a marre.
Elle a mal terminé avec nous.
Il y en a marre de mentir.
Je suis pas responsable parce que Eric te vend. Je suis pas responsable.
Alors, je vends rien moi.
Est-ce qu'on a des raisons?
En plus, c'était pas il y a 15 ans, c'était il y a plus de 20 ans.
Ouais,
ça ne nous rajeunit pas.
Est-ce qu'on a des raisons de croire ce jeune garçon comme un phénomène, Alizé?
Comment?
Est-ce qu'on a le droit de croire que c'est un phénomène?
Alors, toi, tu crois, par exemple? J'aime pas trop monter tout ça en mayonnaise parce que le chemin est long. Là, on a dit au début qu'il n'y avait pas eu encore de coup d'éclat. Gagner deux futurs d'affilée à son âge, c'est déjà un petit coup d'éclat quand même. Il a gagné, je ne sais pas combien de matchs d'affilée, peut-être 14 avec les qualifs de Montpellier inclus. Et il faut pas oublier qu'il revenait de blessure. Il a été blessé quasiment toute l'année dernière. Mais c'est vrai que moi, ma petite inquiétude, c'est de le voir passer de main en main et de ne pas construire de continuité en fait avec un coach, avec une structure qui lui permettrait d'avoir peut-être à long terme un jeu un peu plus solide, un peu plus musclé. Mais pour l'instant, il est quand même très prometteur.
D'accord.
On n'a pas de Français à la hauteur de ce qu'il fait pour l'instant.
Il fait partie de l'équipe de France, de structure.
culture française, enfin de.
Il s'entraîne au sein de la fédération.
Qui décide des entraîneurs?
C'est lui, c'est ses parents. Ah ouais, il est quand même mineur, donc c'est les parents qui sont quand même responsables de lui.
Mais la mère, elle a déjà fait un peu de tennis, la mère. Elle est apte à comprendre qui. Enfin, elle est apte, surtout, elle a les qualités de repérer le bon entraîneur ou du mauvais.
C'est un sujet intéressant.
Je suis toujours étonné.
Marion Bartoli n'était pas un grand tennisman.
Exactement.
Oui, d'accord. Mais tu peux manager, mais faut faire attention.
Mais il s'était transformé en coach.
Il faut faire attention, et puis surtout à un moment donné, il faut entre guillemets prendre le risque de faire confiance de faire confiance à quelqu'un, à une équipe, et de prendre le pari de voilà. Et pour l'instant, c'est ce que Moïse n'arrive pas à faire. Il y a beaucoup de switch dans son équipe, et peut-être que là, pour l'instant, ça fonctionne. Il a des résultats. Il y a Richard qui a repris le truc en main, mais peut-être que sur le moyen long terme, ça peut lui causer un petit manque de stabilité.
Alors avant de revenir sur cette instabilité,
il a du Hugo Gaston, tu me disais.
Sarah,
tu me disais il a un peu de sur le coup droit.
D'abord, est-ce que le joueur te laisse penser qu'on a affaire à
du Gastonnet,
un très bon
bah, oui, forcément, quand tu as des résultats aussi précoces, forcément, tu fais partie des joueurs à surveiller avec un potentiel. Mais encore une fois, dans le tennis, le potentiel, c'est une chose, le travail en est une autre, la construction de sa carrière en est un troisième. Donc en fait, ce que tu construis aujourd'hui, c'est ce qui te permet aussi de durer. Et c'est là il est jeune, hein, il a 16 ans, donc je pense que lui, c'est pas qu'il a pas le droit, il a pas la voix au chapitre, mais je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, on fait des choix pour lui, probablement. Et qu'à un moment, plus il va prendre d'épaisseur, plus lui devra imposer ses choix. Mais c'est toujours la difficulté dans un sport individuel comme le tennis, c'est-à-dire que tu es ton propre patron. Ouais, en fait, c'est toi qui décides. Ta fédération, difficile. Elle t'accompagne, oui, mais à partir du moment où tu vas sur le circuit professionnel, t'es pro. J'ai envie de dire, il y a personne qui peut t'imposer avec qui exactement.
Et après, ça fait des chroniqueuses avec des caractères de cochon.
Juste Sarah, il va avoir 17 ans là.
Ouais.
Le classement actuel, je ne sais pas si c'est significatif. Il est 503e. Si demain le lâches sur un premier tour d'un ATP 250, est-ce qu'il peut rivaliser avec un 50e mondial
à Kovacevic? Oui, il peut tenir la dragée haute. Et puis c'est pas une question de tennis, c'est une question d'expérience. C'est jouer ce niveau-là de manière plus régulière, parce qu'en fait quand tu joues les niveaux en dessous, il y a des trous d'air, enfin je veux dire les joueurs ont moins de constance, donc en fait s'il arrive à garder cette constance là à ce niveau là il peut rivaliser.
Moi j'ai du mal avec les sports 250 et tout ça. Il joue contre Djoko, qu'est-ce qu'il fait?
Il en prend une bonne, mais par contre il peut complètement rivaliser avec un mec top 100, exactement, sur un match. C'est enchaîner ces performances là à ce niveau là
c'est la gestion.
Il est peut-être encore un peu jeune, il manque un peu de maturité encore.
Si on exclut les légendes, c'est-à-dire les mecs qui sont totalement hors normes, à quel âge tu arrives sur le circuit avec tout ton bagage? C'est-à-dire que 17 ans, c'est encore très jeune.
Ça, c'est unique à chaque personne.
Ouais, c'est
pour ça que c'est temps de passage. Moi, je crains un peu ce terme parce que chez certaines personnes, la maturité, elle va arriver à 17, 18 ans. D'autres, elle va arriver à 22, 23. À d'autres encore plus tard. D'autres, à 60, d'autres jamais. Donc en fait, on peut pas vraiment
Alcaraz.
Mettre des gens dans des cases. On a des filles qui sont arrivées dans le top 10 après 25 ans, d'autres qui sont arrivées à 16 ans. Ouais. Et ça, il faut prendre vraiment en compte la singularité de chaque joueur, c'est très important.
Mais il en est où par exemple,
il est précoce, c'est ça.
Mais là, il est précoce.
Temps de passage. Il en est où, Eric, par rapport à Richard Gasquet, par exemple?
Richard a gagné son premier match sur le circuit à 15 ans.
D'accord. Un joueur comme Richard était en avance parce que c'était
par rapport à mon fils, puisque tu l'as comparé à mon fils.
C'est très dangereux de comparer Moïse à un Richard. Là, on prend pas les bons exemples. Richard, c'était une exception.
C'est pas trop pour les comparer, c'est juste pour imaginer si la marge est encore très importante.
Mais en fait, je pense que la solution, c'est de le laisser faire en fait son chemin. Sans vouloir forcément le monter en épingle, sans le descendre dès qu'il perd un match. Il va faire son chemin. Et ce qu'on voit, c'est qu'en quelques mois, là, après s'être remis de blessure, il a quand même très, très bien joué. Donc laissons-le faire son chemin. Il aura sûrement une wildcard dans les qualifs de Roland Garros. Je ne sais pas. Mais
il joue encore les juniors, Eric?
Non.
Il sera dans les qualifs de Roland?
Il y a des chances quand même.
Il les a joués l'an passé.
Wildcard possible.
Voir peut-être. On sait pourquoi il ne joue plus les juniors?
Parce qu'il y a eu cette blessure, donc ils ont décidé, le projet c'était de prendre des points.
Non, mais parce que le circuit junior est très formateur.
C'est pour ça. Et gagner un grand chelem junior, d'aller au bout d'un tournoi en jouant sur les grands chelems, c'est une expérience.
Il s'est blessé déjà.
Oui, l'année dernière, il a une blessure au dos.
C'est curieux, c'est récurrent chez les tennisman.
C'est surtout les membres inférieurs en ce moment, c'est terrible. Les épaules, les coudes, les poignets.
Il tape de plus en plus fort, c'est ça. Il y a la vibration, la raquette, ça fait.
Les balles sont réputées être de moins bonne qualité.
Oui, mais qu'ils arrêtent de mettre des balles du Pays Basque de la Pala parce qu'elles sont très dures, ces balles.
Elles sont faites en Inde.
Tout basiquement, on n'est pas médecin, mais ce sont des jeunes qui sont encore en pleine croissance. En fait, quand t'as 13, 16 ans, tu tapes comme une mule, ton corps est en train de changer.
Juste façon pour conclure.
Le quart de la rookie est toujours en pleine croissance. Hein.
On va pas le condamner trop vite.
Non, mais moi j'espère que Moïse. J'espère que de voir comme tout le monde un gamin qui s'y filme. Déjà, premier truc, boum, là, les choix des trucs, ça fait 4 entraîneurs et tout.
Mais t'es tellement sceptique.
Mais moi j'aimerais. Mais je serais heureux de voir un mec qui explose, tu vois, parce qu'on est à la recherche du bravo Yannick.
T'inquiète pas,
le pauvre Yannick, le maire de Yaoundé.
Dans un instant, donc.
On va l'appeler.
Il est capitaine du tennis en fauteuil.
Oui.
Ah ok.
Le jeune papa Yannick Noah d'ailleurs.
Dès qu'il faut prendre un billet, il est fusillé.
Allez, on revient tout de suite dans le journal moyen avec Stephen Brun, avec Denis Charvet.
Des casseroles.
Classique.
Des saucisses. Normalement, on va se marrer. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Il est 16h45, vous êtes sur RMC, vous écoutez le Super Moscato Show, c'est l'heure du journal moyen. Deuxième édition,
oui, sur RMC. Quelques absences pour Dudu et Didi, Eric et Dimeco et Christophe Dugarry dans Rotten sans flamme. Belle casserole sur Stephen Brun. On va pas être fiers de notre copain. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Eric Dimeco n'a pas une seule bonne réponse depuis 7 matchs.
C'est le 7ème, c'est le 8ème,
Direct live en plein milieu de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
D'abord, service après-vente du Moscato Show, Pierre Dorian, notre professeur de français, de grammaire, de syntaxe.
C'est très grave, non, je peux pas.
A glissé hier.
Je sais de quoi tu vas parler.
Ah, alors ?
Et alors, c'est très très grave.
Ok. Il a glissé hier en présentant le débat Paris Saint-Germain. Pierrot,
c'est vrai.
Tu vas devoir présenter tes excuses à la France. On écoute.
Cette compétition est tellement particulière, Vincent. Le match est-il plié selon vous? Ou est-ce que le PSG peut-il être en danger? C'est la question qu'on va vous poser au 32-16.
Est-ce que le PSG peut-il? Mais non, mais on est où là?
C'est abominable.
Deux interrogations dans la même phrase.
C'est terrible. Donc je présente mes excuses à la
question.
J'organise une sorte de VAR radiophonique. Puisqu'hier, on a accusé Vincent d'un M et d'un N. Ça, la maladie.
Ça,
Vincent aurait dit Pepito Micora Somme. On vérifie et on juge. La première fois, il le dit bien. C'est la deuxième fois où j'ai un doute. VAR, s'il vous plaît. Y a-t-il une raison de refuser le MNN? On écoute.
Vincent n'arrive pas à dire Pepito.
Non, je ne sais pas dire Pepito.
Je pense qu'il y a essayé. Je pense qu'il y a essayé. Pourtant, la première fois, tu le dis bien.
Ouais.
Et nous, on se moque de toi. Il n'arrive pas à dire Pépito.
Ouais, c'était fou, mais Pépito, tu l'as enchaîné 4 fois.
J'ai écouté Rotten sans flamme hier. Rotten sans flamme, 18h-20h sur RMC avec quelques absences de la Dream Team. C'est assez inquiétant. C'est l'heure du procès à 18h30. Procès du RC Lens, accusé de ne plus savoir gérer la pression en cette fin de saison. Vous connaissez le principe. Chacun joue un rôle du membre du tribunal du procès. Benoît Boutron distribue les rôles.
On ouvre donc le procès des Lensois, accusés de ne plus savoir gérer la pression à quelques journées de la fin. On a deux procureurs ce soir, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, Eric est procureur, vous avez compris. Christophe Dugarry, lui, est avocat, le troisième larron. Eric est procureur, c'est très clair.
De suite, il prend quand même le truc.
Le procès se déroule et là, c'est très inquiétant. Petite absence, la parole au procureur.
ils seront peut-être deuxième, en tout cas ils seront dans les trois à coup sûr, donc ils vont faire la Ligue des Champions et ils ont une Coupe de France à jouer.
T'as un tirage abordable à domicile, forcément.
Oui, mais surtout c'est un match à élimination directe, tu te lâches. Là, le calcul peut-être qu'à un moment donné, ça
ou avocat, Eric, il les défend ou il les accuse,
j'ai pas compris. Là, je les défends. Je dois faire quoi, moi? Non, mais tu as dit que j'étais avec Jérôme. Mais moi, je dis que
malheureusement.
Du gars qui est mort de rire, évidemment, il est moqueur.
Le problème, c'est qu'il me met le doute, ce con, quand je commence.
Il a frappé aussi fort du gars hier, Christophe Dugarry, à 18h45. C'est Allô Jérôme, on appelle un invité, on parle de l'OL, on appelle l'ancien Lyonnais latéral, François Clerc. L'interview a l'air de passionner du gars. Écoutez, on parle de Lyon, il est très impliqué dans l'interview du gars.
Les grosses équipes entre guillemets sont de l'autre côté du tableau, donc il y a quand même un vrai coup à jouer. Tu peux pas prioriser, tu peux pas. Il faut tout jouer à fond là, bien sûr.
Ah voilà. Dugas, t'es d'accord?
Oui, surtout.
Ah ouais. Okay.
Oh ouais, non mais le mec il a pas envie quoi.
Ouais.
Non quoi.
Mec, il tourne
la radio, il
fait ouais, c'est bon. Pas mieux.
Pas mieux. Ouais. Pas mieux. Moi, je pense que c'était très bien.
Les Lyons, ils sont saucissonnes de Lyon.
Lyon, ils sont saucissonnes.
Entend les Girondins, Marseille, Paris.
Mais les Girondins, ils n'en parlent plus.
Mais alors, Lyon,
il n'y a plus de débat. J'ai écouté Entre les poteaux hier le podcast rugby, magnifique, avec toute l'équipe rugby d'RMC, dont Denis Charvet, qui nous a laissé un petit cadeau. On parle d'un éventuel retour en bleu de Damien Penaud. Denis a comme un doute. Denis ?
Bon, non, mais il va revenir, Damien. Damien, pardon.
Ouais, alors on est sur un petit doute. Ouais. Mais bon, là, ça va. Mais à un moment, il va vouloir faire entrer le papa dans la danse de cette phrase. Le papa de Damien Penaud. Il y a un problème.
Jean-Pierre Pernaud.
Bon, non, mais il va revenir, Damien. C'est Damien, pardon. Damien, son papa.
Damien, c'est pas son papa, Damien.
C'est Alain, son papa.
Alain Charvet, tu te rappelles.
Je pense qu'il y a quand même eu quelques commotions cérébrales.
Je suis pressé.
On va envoyer tout ça à Adrien.
Vous savez quoi?
Allez, au diable.
Je pense qu'on peut arrêter cette émission pour faire une intervention médicale.
Protocole commotion. Je pense qu'il n'a pas répondu aux questions. Donc il restera au vestiaire.
Il reste au vestiaire.
Il reste au vestiaire, celui-là.
Oh là là.
Ils n'assistent pas du tout en plus.
Damien, c'est son papa. Qu'est-ce qu'il lui a pris?
Mais il est free.
Sans transition, c'est l'instant Stephen Brown jingle.
What time is it, Stephen?
Game time.
It's game time, Pierrot. Let's go.
Game time.
Eh ben dis donc, on va en apprendre un peu plus sur la carrière de joueur de basket de Stephen Brun et surtout de son attitude avec ses entraîneurs. Respect de la hiérarchie, Vincent, respect du technicien. Je suis tombé sur un podcast basket qui s'appelle Cholet Basket, le podcast. Il est produit par West France. C'est toute l'actu de Cholet, des souvenirs, des archives, etc. Invité du jour, témoignage, un entraîneur de basket qui s'appelle Thierry Chevrier. Stephen, qui a été ton coach à Nantes à l'époque, il raconte les joueurs, il nomme les joueurs avec qui il y a eu des soucis de comportement. Certains lui ont jeté des objets. Carrément. Non. Stephen, on n'est pas fiers de toi. Thierry Chevrier.
L'entraînement, il l'avait arrêté, comment il s'appelle, Jean-Paul. Oui. Et là, il me balançait des bouteilles d'eau.
C'est pas Stephen.
John Devereaux.
C'était un fou furieux.
C'était un caractère. Fou furieux. Donc, on a eu les mêmes problèmes.
Ouais. Mais Thierry, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le joueur qui t'ont balancé des trucs. Parce que je crois que Stephen Brun t'avait balancé une paire de ciseaux. C'est, qu'est-ce que tu faisais pour que les joueurs te balancent des trucs comme ça?
Attention, là, on parle de deux cas. Stephen ne m'en voudra pas. Hein, parce
il est très probable qu'il soit à ce micro bientôt. Alors, attention, ce sera répété.
Stephen, je lui ai donné sa chance à Nantes, que personne ne voulait le prendre. Hein, parce que c'était quand même un phénomène. Alors, quand tu dis phénomène.
Un phénomène. Un phénomène. Alors attends, donc tu as jeté une paire de ciseaux sur ce chevrier-là.
C'est sûr que dit comme ça, ça fait quand même un peu.
Comment c'est possible?
En fait, un peu violent,
le contexte. En fait, on s'entraînait, et à un moment donné, je pénètre dans la raquette et je me fais une grosse entorse de cheville. Et là, j'ai vraiment mal, je boite et tout ça, et je l'entends dire. Le système ne demandait pas cette pénétration, il se démerde, je veux que personne ne le soit, il se débrouille.
Ah ouais.
J'étais à côté de la pharmacie, ciseaux. On passe à côté de la
pharmacie. Le ciseau, c'est ton entraîneur.
Ouais.
Non, mais là.
Il t'a sanctionné?
Et le mec qui vient nous expliquer la vie.
Il ne faisait pas jouer de l'année, donc la sanction, c'est que j'ai pas joué.
Pourtant, il t'a donné ta chance.
Il m'a donné ma chance, il m'a donné un contrat. Mais on peut donner un contrat, donner des minutes, c'est pas pareil, Thierry.
Mais en même temps, le système ne demandait pas une pénétration aussi.
Je vous conseille, excellent podcast. Cholet Basket, le podcast, c'est pas une anecdote d'un club.
C'est incroyable,
gros.
Le mec qui jette des ciseaux sur son entraîneur.
Cholet, c'est un club mythique. C'est-à-dire que quand t'as le tampon Cholet, c'est pas pareil.
Ouais, c'est pas pareil.
C'est le plus grand club formateur de
l'histoire. Comme Limoges.
Kikadi. Première question du Kikadi du jour.
Tu sors du centre de formation du Barça. Non, mais vraiment, un truc.
Cholet, c'est un truc.
C'est une sorte de petite aristocratie du basket français.
Ils en ont envoyé des mecs en NBA. Pas moi, mais ils en ont envoyé beaucoup.
Turbulent, Stephen, pour jeter une paire de ciseaux.
Stephen, il est très sympa aujourd'hui, mais il est insupportable en tant que joueur. Il le reconnaît lui-même, d'ailleurs.
Il s'est cassé le micro, c'est pas grave.
Allez, dans un instant, Zidane réussira-t-il forcément en tant que sélectionneur des Bleus? À tout de suite.